Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Que l'on parle de la vague de contestation contre les violences faites aux Noirs ou aux femmes, de la crainte d'une crise sociale avec la récession économique, la question des inégalités mobilise plus que jamais les opinions publiques. Dans la lutte contre le racisme, on a beaucoup parlé de racisme d'État ou comment les institutions se montrent complices d'une différence de traitement entre blancs et gens de couleur. Cette accusation éclate aujourd'hui au grand jour avec un scandale national aux Pays-Bas. On l'appelle la Toeslaren, comprenez le scandale des allocations familiales. Pendant des années, l'administration fiscale a accusé à tort des milliers de parents d'avoir touché des allocations et leur a demandé de rembourser. Mais le fisc n'avait ciblé que des personnes d'origine étrangère. Scandale, le Premier ministre a dû prononcer des excuses et certaines associations envisagent un procès. C'est le reportage aux Pays-Bas d'Antoine Moutot.
D'un pas décidé, entre deux séances de débat au Parlement, Renske Leuten nous accorde un peu de son temps. Avec plusieurs journalistes et avocats néerlandais, cette députée de la gauche radicale du Socialistische Partij a permis de mettre au jour l'un des plus grands scandales récents qu'ont connus les Pays-Bas, la Toeslaren affaire, l'affaire des allocations.
L'affaire des allocations, c'est l'affaire dans laquelle beaucoup de parents qui recevaient une compensation pour régler les frais de crèche de leurs enfants ont dû la rembourser à tort. À plusieurs égards, cette affaire est très grave. D'abord, ça a duré très longtemps avant que l'on sache vraiment que près de 26 000 personnes en ont été victimes. Le gouvernement était au courant. Il savait que beaucoup de gens en souffraient et sont devenus pauvres à cause de cette situation. Et pourtant, il n'est pas intervenu.
Rapidement, Renske Leuten et d'autres observateurs se rendent compte qu'une partie non négligeable des victimes a soit une double nationalité, soit un nom de famille d'origine étrangère.
Il y a eu une sélection en fonction des origines des personnes. J'ai pu le constater en recueillant les signalements des victimes. J'en ai reçu 2000 au total et beaucoup d'entre elles ont des noms de famille d'origine immigrée. Ce qui est grave également, c'est que l'administration fiscale a utilisé la donnée nationalité afin de déterminer de façon systématique qui se trouve dans la catégorie à risque. C'est de la pure discrimination.
En mai dernier, l'administration fiscale néerlandaise est passée aux aveux. Dans cette affaire, elle s'est rendue coupable de profilage ethnique. Angelica Engels-Suarez, néerlandaise d'origine équatorienne, mère d'une petite fille, est l'une des victimes de cette discrimination.
Moi aussi, j'ai la double nationalité. Je suis arrivée aux Pays-Bas lorsque j'étais bébé, car mes parents néerlandais venaient de m'adopter. Mon premier nom de famille est néerlandais et je me sens néerlandaise. C'est logique puisque j'ai grandi ici, aux Pays-Bas. Mais je suis née en Équateur, d'où ma double nationalité. Me dire que ce qui m'est arrivé est lié à ça, que j'ai subi du profilage ethnique, c'est vraiment grave.
Grâce à la médiatisation de l'affaire, le Premier ministre Mark Rutte a été contraint de présenter ses excuses et un secrétaire d'État chargé du dossier a dû démissionner. Mais pour les victimes, le mal est déjà fait. Certains, pour rembourser les allocations, ont dû contracter de graves dettes et se sont parfois retrouvés à la rue. Angelica Engels-Suarez, elle, a dû retirer sa fille de la crèche et perdu, selon elle, environ 20 000 euros.
Au tout début, je me suis dit qu'il y avait une erreur. Donc j'ai appelé l'administration fiscale, mais c'est comme si je parlais à un mur, parce qu'en réalité, personne au téléphone n'était capable de me répondre. Et au bout de 3 mois, rien n'avait changé.
Aujourd'hui, comme beaucoup, elle attend toujours un remboursement et une compensation. Et il n'y a pas que l'immobilisme et la lenteur des autorités qui agacent les victimes de cette affaire. Cet été, plusieurs d'entre elles se sont rendues compte que les fonctionnaires chargés de leur dossier d'indemnisation sont parfois les mêmes que ceux à l'origine des erreurs qui ont conduit au scandale. L'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, souhaite des poursuites à l'encontre de ces fonctionnaires, mais aussi et surtout la fin du profilage ethnique aux Pays-Bas. Emile Affolter est porte-parole d'Amnesty International Pays-Bas.
L'affaire des allocations démontre de nouveau quelque chose que l'on a déjà souvent vu. La police néerlandaise s'est aussi rendue coupable de profilage ethnique. Outre le fait que ce soit interdit, on se rend compte à quel point ces pratiques sont dangereuses, car lorsque l'on fait du profilage ethnique, on se base sur des préjugés, avec l'idée que les personnes d'une autre nationalité ou d'une autre race commettent plus de crimes ou qu'ils fraudent davantage le fisc.
Contrairement à d'autres pays comme la France, les données ethniques ne sont pas tabous ici aux Pays-Bas. Des sites comme Allerturnometer, qui reprennent les statistiques officielles des autorités, permettent aux internautes de découvrir le pourcentage d'étrangers non occidentaux ou occidentaux vivant dans leur quartier. Il leur suffit pour cela d'indiquer leur code postal, mais avec le scandale des allocations familiales, une partie de l'opinion publique semble désormais prendre conscience de la gravité du profilage ethnique et des discriminations basées sur les origines et la nationalité.
Et au Royaume-Uni, avec la crise économique qui s'annonce, faudra-t-il faire payer les plus riches pour éponger le déficit budgétaire qui atteint 17% du PIB ? En clair, faut-il créer un impôt sur la fortune ? Aujourd'hui, même les conservateurs au pouvoir y pensent très sérieusement. À Londres, Marie Billon.
Augmenter les impôts ne figure pas du tout dans le manuel du bon Tory. Pour beaucoup de membres du parti, cela s'inscrit même en haut de la liste des choses à ne pas faire. Mais le gouvernement de Boris Johnson a déjà dû briser des tabous plusieurs fois cette année. Son ministre des Finances, Rishi Sunak, est désormais applaudi pour ses largesses pendant la crise du coronavirus avec une cote de popularité de 60%. Mais depuis qu'il veut redresser la barre, les couteaux sont tirés car le chancelier de l'échiquier est prêt à casser les règles encore une fois, mais au détriment des caciques de son parti. Il pense à réformer l'impôt sur les plus-values financières pour l'aligner sur le taux de l'impôt sur le revenu. Actuellement, les gains sur le capital sont imposés à la hauteur de 28%, un taux qui pourrait passer à 40%, ce qui rapporterait l'équivalent de 17 milliards d'euros en plus à l'État. L'impôt sur les sociétés, lui, pourrait passer de 19 à 24%, ce qui générerait l'équivalent de plus de 13 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2021. L'allègement fiscal dont bénéficient aujourd'hui les retraités les plus fortunés pourrait lui aussi être divisé par deux, passant de 40 à 20% selon la presse. Une mise à plat du régime des droits de succession pourrait aussi se faire au détriment des plus aisés. Tout cela déplaît fortement aux conservateurs. Il faut au contraire baisser les impôts pour susciter les investissements, dit Thérèse Coffey, la ministre du Travail et des Retraites par exemple. Mais l'électorat conservateur a changé. Le parti doit désormais aussi se préoccuper de ses nouveaux électeurs. Les anciens travaillistes du Red Wall, ceux qui ont abandonné leur allégeance quasi ancestrale au Labour au nom du Brexit et grâce à la personnalité de Boris Johnson. Selon un sondage datant de mai dernier, 61% des personnes interrogées sont pour une augmentation des impôts sur les fortunes supérieures à 850 000 euros, 14% s'y opposent. Nous ne pouvons pas perdre notre réputation de compétence économique, a dit Rishi Sunak. Autant dire qu'il serait prêt à remettre en cause l'autre facette de l'identité Tory, le parti de la faible fiscalité.
Elles sont des centaines de milliers de femmes maintenues dans un statut précaire, sans contrat de travail, sans sécurité sociale, sans retraite. Elles, ce sont les travailleuses à domicile turques. Ces petites mains, employées et payées à la pièce parfois par de grandes marques internationales. Mais les choses changent. Leur syndicat vient d'être reconnu par l'État turc. Elles vont donc pouvoir commencer à se battre, pouvoir leur statut reconnu et peut-être avoir le droit à une retraite. À Istanbul, Anand Lauer.
Bunları ince fırçayla yapıyoruz.
Voici un grand tissu en soie sur lequel je peins avec un pinceau ultra fin. C'est une couverture de lit, ça va me demander au moins 6 mois de travail. Clairement, ce n'est pas un hobby, quelque chose que je fais pour passer le temps.
Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Gülsüm Nazlıoğlu a toujours travaillé chez elle. Peint des tissus, brodé des perles, lavé des fruits, coupé des pâtes, assemblé des phares de voiture. Ça fait 30 ans que son salon n'est jamais vraiment son salon, que quelque chose y traîne toujours qui rappelle l'atelier ou la manufacture. Avec ses cheveux roux et ses faux airs d'Annie Girardot, Gülsüm préside le syndicat des travailleurs à domicile de Turquie. Ici, on ne parle pas de télétravail, d'ordinateur et de visioconférence, mais de travail manuel réalisé à la maison par des centaines de milliers de femmes, puisqu'il s'agit presque toujours d'elles, pour le compte de sous-traitants ou d'entreprises internationales. Ces femmes viennent de crier victoire. Le Conseil d'État turc a reconnu début juillet l'existence de leur syndicat après 10 ans de procédure. Le gouvernement s'y opposait et avait même ouvert un procès contre ses fondatrices, faisant valoir qu'il s'agissait d'activités non déclarées, donc illégales. Gülsüm Nazlıoğlu.
Notre argument est très simple. Il n'y a aucune différence entre nous et les autres travailleurs. La seule différence, c'est que notre maison est notre lieu de travail. Avec cette décision, le Conseil d'État reconnaît pour la première fois que la maison peut être un lieu de travail à part entière. C'est un changement radical. C'est la réponse de la justice à ceux qui nous disent « Quoi, vous occupez votre temps en faisant de la couture chez vous et vous osez réclamer des droits sociaux ?» Regardez, quel être humain sensé pourrait occuper son temps libre avec ce pinceau-là.
Ces travailleuses sont payées aux pièces, c'est-à-dire en fonction de ce qu'elles produisent. Leurs employeurs, quand elles les connaissent, tant leur activité repose sur des intermédiaires, ne les déclarent nulle part. Elles sont donc privées de sécurité sociale et de droit à la retraite. Autrement dit, souvent dépendantes, pour leur santé et leurs vieux jours, d'un homme, un père ou un mari. Pourtant, comme tous les travailleurs manuels, elles travaillent avec leur corps, et leur corps en souffre.
Toutes nos membres souffrent de maladies du travail. Moi, par exemple, j'ai une incisive fendue à force de tenir l'aiguille avec mes dents. J'ai une hernie discale et la gorge irritée en permanence avec toutes ces peintures que j'utilise. Ça me donne aussi des maux de tête et des insomnies.
Sanem, 65 ans, vit à Ankara, la capitale turque. Enfant, elle travaillait à la maison pour aider ses parents. Plus tard, elle a élevé 8 enfants tout en continuant de travailler chez elle. En ce moment, elle brode des perles sur des vêtements et tricote des napperons.
Bien sûr que je me considère comme une travailleuse. Toute ma vie, j'ai tenu ma maison, élevé mes enfants et fait tous ces travaux manuels. Pas une fois je ne me suis reposée, pas une fois je n'ai gagné ma vie suffisamment pour en profiter. Et à mon âge, c'est encore comme ça.
Sanem, cofondatrice du syndicat des travailleurs à domicile, voit dans la décision du Conseil d'État une forme de reconnaissance de sa vie de labeur, même si elle doute de toucher un jour une retraite de l'État.
J'ai toujours travaillé. Aujourd'hui, je n'ai droit à rien. Pendant longtemps, je n'ai même pas pensé à demander. Quelle ironie. Pendant 5 ans, je me suis battue avec l'administration pour que mon mari puisse toucher une retraite, pour que l'homme parte en retraite, comme on disait. Lui, il n'a jamais fait aucune démarche. Si j'avais su, c'est pour mes droits que je me serais battue à l'époque. Aujourd'hui, même si l'État ne m'accorde qu'un seul jour de retraite, je le prendrai. Je me dirais, ce jour-là, je l'ai gagné à la sueur de mon front, juste pour pouvoir me dire, ne serait-ce qu'un seul jour, je suis en retraite.
La reconnaissance officielle du syndicat va d'abord lui permettre d'enregistrer des membres, donc de grandir. Jusqu'ici, il s'agissait d'un réseau informel de quelques 3000 femmes. Puis, cela va aider ces femmes à faire pression sur les autorités et leurs employeurs pour réclamer un statut légal et des droits sociaux. Elles en ont d'autant plus besoin que leurs maigres revenus ont chuté avec l'épidémie de nouveau coronavirus. Gülsüm Nazlıoğlu.
Nous avons été contraintes de travailler moins et pour encore moins cher. Beaucoup de nos membres sont restés avec des commandes sur les bras que les employeurs ont refusé de rémunérer. Cette épidémie nous a donc encore plus précarisés. Et comme l'État ne nous considère pas comme des travailleurs, nous n'avons reçu aucune aide.
Gülsüm Nazlıoğlu y voit une raison supplémentaire pour rassembler dans son syndicat le plus grand nombre possible de travailleuses à domicile et militer pour leurs droits sociaux. Car en plus d'être invisibles, ces femmes sont le plus souvent isolées les unes des autres. Et l'épidémie n'a fait qu'aggraver ce problème. Et si l'épidémie de Covid-19 avait renforcé la fracture entre les générations? C'est la question que s'est posée l'observatoire Sensi Standard Capital en Italie. Le résultat publié à la fin du mois de juin est le suivant. Moins touchés par l'épidémie de Covid-19, mais très affectés par le confinement, une partie des jeunes Italiens ressent de la rancœur envers ses aînés. Les explications de notre correspondante Cécile Debarge.
Un jeune Italien sur deux estime que dans une situation d'urgence, il serait juste que les jeunes soient soignés avant les personnes âgées. Près d'un sur trois que les dépenses publiques pour les personnes âgées en matière de santé mais aussi de retraite sont trop élevées et que cela se fait au détriment des jeunes. Ce sont deux des principales conclusions de l'étude, l'économie des seniors et ses conséquences dans la société post-Covid-19 qui a interrogé un échantillon d'Italiens âgés de 23 à 39 ans désignés dans cette étude comme les millennials. Une tranche de la population touchée de plein fouet par les conséquences économiques du confinement. Seuls 44,5% des millennials ont continué à toucher les mêmes revenus pendant le confinement, contre 90,7% des personnes de plus de 65 ans, les plus vulnérables face au coronavirus. Des différences qui expliquent les profondes disparités entre millennials et personnes âgées sur la perception du futur. Un peu moins de 5% des jeunes Italiens interrogés estiment que l'Italie pourra se reprendre économiquement après la crise du Covid, contre 20,9% des plus de 65 ans. Ces derniers sont 1 sur 3 à être optimistes sur leur futur, contre 1 sur 10 parmi les plus jeunes. Invité lors de la présentation du rapport par l'observatoire Sensis Tender Capital, le sous-secrétaire au ministre de l'économie, Pier Paolo Barretta, a souligné l'importante capacité de dépense des personnes âgées, tout comme leur rôle social majeur vis-à-vis des jeunes, mais aussi la fracture générationnelle qui semble émerger du rapport et qui exigera des politiques publiques pour favoriser l'emploi, mais aussi développer un nouveau modèle social.
De la Syrie à la Libye, sans oublier l'Allemagne, où l'opposant russe Alexei Navalny est hospitalisé après un empoisonnement. La Russie de Vladimir Poutine est sur tous les fronts de l'actualité en cette rentrée et le président compte bien rester. Depuis que la réforme constitutionnelle approuvée cet été a levé la limite de 2 mandats présidentiels, on peut s'attendre à voir Vladimir Poutine se présenter aux prochaines élections de 2024, alors qu'il cumule déjà 2 mandats de Premier ministre et 2 mandats présidentiels. C'est dans ce contexte que sort en France, chez l'éditeur Buchet-Chastel, le livre du professeur d'économie Sergueï Medvedev qui s'intitule « Les 4 guerres de Poutine ». Bonjour Étienne Bouche.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Quelles sont les guerres dont parle l'auteur ?
Selon lui, Poutine mène 4 guerres. Une guerre pour le contrôle de l'espace, des symboles, des corps et enfin de la mémoire. Et le dénominateur commun de ces 4 guerres, vous l'avez dit, c'est l'affirmation du retour de l'État. Et même les chapitres qui pourraient sembler anecdotiques permettent de saisir un trait de la Russie contemporaine. L'auteur écrit notamment que Poutine a remis au goût du jour la table des rangs, cette hiérarchisation des degrés de noblesse instituée sous Pierre le Grand. Et dans ce système de castes, les hauts responsables de l'État se situent au-dessus des lois. Le corps du roi, lui, est sacralisé. L'auteur est professeur à la Haute École d'économie de Moscou, il est un pro-occidental convaincu, et si ses thèses peuvent être discutées, sa pensée, elle, est argumentée et toujours stimulante.
Alors après la désintégration de l'Union soviétique, Vladimir Poutine s'est aussi employé à replacer la Russie sur la carte du monde, Étienne.
Oui, et d'ailleurs le titre original de l'ouvrage fait référence à la Crimée. La perte de l'Ukraine est perçue comme le prolongement de la chute de l'URSS, une réplique inacceptable, et l'annexion de la Crimée apparaît comme la réaction émotionnelle d'un pays incapable de dépasser son traumatisme post-impérial. La dislocation de l'URSS a été perçue comme une défaite, une humiliation, alors que selon l'auteur, elle signifiait au contraire une chance. Et ce qui manque aujourd'hui à la Russie, c'est une réflexion apaisée sur elle-même. Est-elle le pays des Russes ou bien un empire multinational ? Quelle est sa place dans le monde actuel ? Sauf que l'élite russe préfère à ces questions la liturgie permanente de la victoire.
Et ce que dit ce livre, c'est que le pays vit aussi en décalage avec le monde contemporain.
Oui, effectivement, et ce décalage s'explique par le refus de se pencher sur le passé. Il est défendu de s'attaquer aux symboles de l'État. Et parmi ces symboles, il y a bien sûr la figure la plus taboue de la période soviétique, celle de Staline. La déstalinisation de 1956 ne fut que partielle. Les victimes ont certes été réhabilitées, mais les exécutants, eux, sont restés anonymes. Selon Medvedev, rien ne pourra changer en Russie tant que le pays n'aura pas effectué son examen de conscience.
Merci Étienne Bouche, très bonne journée.
Bonne journée.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.